Pour son deuxième passage à l'émission du podcast de l'émergence, mon invité d'aujourd'hui, William-Henri Nadeau, a décidé de nous partager encore plus avant sa passion pour la neuroscience et le comportement et la façon de penser des dirigeants des grandes sociétés et comment ça influence leur rendement à la bourse et qu'est-ce qu'ils regardent au juste. Et dans un deuxième temps, il va répondre à une question qu'on a reçue d'un auditeur. Et en troisième partie, il va nous parler d'un nouveau projet qui s'en vient pour lui. Alors, c'est Pierre-Luc Poulin, auteur, formateur, podcasteur, intervieweur. Et aujourd'hui, je vous présente William-Henri Nadeau, un passionné des neurosciences et un gestionnaire émergent. Ben, bonjour William-Henri.
Alors, bonjour Pierre-Luc. Merci. Alors, merci encore et encore bravo pour tes podcasts. C'est fascinant de voir comment, surtout les interviews, les entrevues que tu fais avec les différents gestionnaires, de voir comment chacun peut gérer de façon différente. Alors, c'est ce qui fait la beauté de la gestion portefeuille. J'ai toujours pensé que la bourse, c'est le prolongement de la psychologie humaine. On le voit aussi chez les gestionnaires. Selon le profil de personnalité des gestionnaires, on retrouve une façon différente de gérer, et c'est ce qui est merveilleux.
Bien, je suis content, tu m'appelles le concept de gestionnaire. Le gestionnaire de fonds, ça fait une différence. Aujourd'hui, on a trois sujets que je veux qu'on parle avec toi. On va parler des gestionnaires, justement des leaders de rupture des compagnies à la bourse, qui semble être un sujet super important pour toi. Dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on puisse peut-être parler du prêt investissement. On a reçu une question d'un auditeur au niveau du prêt investissement. Et dans un troisième temps, j'aimerais que tu nous parles de la création d'un petit nouveau, des balados que tu vas faire de ton côté toi-même. Tu as été inspiré, je pense, puis tu as des choses que tu veux faire au niveau des balados. Donc, on va se parler de ça dans un troisième temps. Ça ne te dérange pas. Donc, je partirai tout de suite en premier. Je sais qu'on s'était dit qu'on parlerait du pré-investissement, mais je viens de décider de changer, qu'on va aller avec les leaders, parce que c'est un sujet qui te touche beaucoup, la façon de gérer, la façon d'être un leader au niveau des compagnies, surtout des compagnies boursières.
Oui, parce que parmi l'ensemble des facteurs de rendement qui, à mon avis, selon mon point de vue, mes recherches, un des premiers facteurs de rendement, c'est le type de profil de manager que se trouve à la tête des organisations. Alors, parlons des actions à la bourse, ça peut être aussi vrai des actions privées, gouvernementales, politiques, quoi que ce soit. On les appelle les leaders transformationnels. Alors, ce sont des leaders qui ont aussi une capacité d'innovation très avancée. Alors, quand on regarde les plus grands succès depuis 5 à 10 ans, ou même 15 ans, au niveau boursier, surtout du côté américain, alors ce sont, ils sont dirigés souvent actionnaires importants ou fondateurs, entrepreneurs, par des leaders transformationnels. Et c'est un facteur de rendement qui est excessivement élevé. Et l'inspiration, elle vient d'une vingtaine d'années. J'avais été marqué par un livre qui s'appelle « Bâti pour durer, Built to Last », qui avait été écrit par deux chercheurs d'Harvard, qui a été qualifié comme le livre de management du siècle passé, et qui ont fait une étude sur une soixantaine de sociétés qui avaient au moins 30 ans, puis ont fait des comparables. Et ils ont ressorti dans les trentaines de sociétés qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans l'ADN de ces organisations-là. Et aujourd'hui, on remarque que si on peut faire des parallèles, l'histoire se ressemble parce que les gens se ressemblent, les leaders qui sont à la tête de ces organisations se ressemblent, mais ils ont quand même des points communs. Ils inspirent ce qu'on appelle les leaders transformationnels, une culture transformationnelle.
Et comment tu fais pour les repérer?
Le leader transformationnel, c'est un leader qui est capable de prendre toute l'organisation au complet, que ce soit les employés, les actionnaires, vers un but commun, vers un but collectif, à laquelle il y a quand même un niveau d'émotion avancée, une confiance collective qui est faite. Alors, ils ont, oui.
Non, c'est juste savoir, j'adore le concept, je l'entends bien, sauf que dans un filtre sur les actions, donc autrement dit, on est très très loin de la méthode quantitative, donc je te dirais, toi dans ton radar ou ta façon, est-ce que tu as une méthode particulière pour tomber, autrement dit, ou voir ou étudier ces compagnies-là, est-ce que tu as une façon de les regarder ou de les étudier ou de lire par rapport à eux, ou qu'est-ce que tu regardes pour que cette partie-là ressorte, autrement dit?
Bon, je gère des actions style valeur et des actions style croissance. Ce que je te parle, Pierre-Luc, c'est le premier critère de rendement pour les actions de style croissance.
Okay.
Les actions de croissance, ce sont des actions à lesquelles on est prêt à payer plus cher, souvent, en termes de ratio coût-bénéfice anticipé, valeur au livre, etc., sur le court terme, parce que sur un horizon de 3, 4, 5 ou parfois 8 ans, c'est plus rare, le prix est raisonnable, un peu comme Warren Buffett, le prix est raisonnable par rapport à la capacité de croissance de l'organisation. Mais pour investir dans une entreprise de croissance, il faut être convaincu qu'à la tête de ces organisations-là, il y a des leaders qui ont de quoi de particulier et qui ont transformé l'organisation. Donc, c'est là que vient... ces entreprises-là ont souvent un point commun. Ils ont tendance à innover beaucoup plus que la moyenne des autres sociétés. Alors, ils ont tendance à faire... Il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation de rupture, puis l'innovation incrémentale. Alors, l'innovation incrémentale, c'est améliorer un processus existant. Alors, un produit existant, le raffiner, l'améliorer. Et l'innovation de rupture, c'est celle où procéder, c'est pas seulement un produit, ça peut être la façon de faire la mise en marché marketing, ça peut être la façon de faire la comptabilité, ça peut être la façon de transformer la mécanique d'opération d'une usine vers quelque chose que à un coût radicalement plus faible, il y a un bénéfice au consommateur radicalement plus élevé. Alors, ces gens-là ont caractéristique de sortir des produits, des services qui n'ont pas été souvent lancés par des concurrents. Ils sont souvent les premiers à le faire et prennent facilement la dominance sur le leadership d'une ligne de service. On peut, c'est plus facile quand on parle d'exemples concrets. Là. Je prends l'exemple de Netflix. Netflix, c'est un type que j'avais isolé dès 2012. Alors, Larry Page, le principal fondateur, alors il était consommateur, il retournait ses vidéos au club vidéo du coin, les DVD, et puis il avait l'amende tout le temps parce qu'il était en retard. Ça l'a frustré. Et à ce moment-là, ben, il s'est créé sa société en mettant en livrant des DVD en par la poste. Vous rappelez, beaucoup se rappellent de ça. Bon, ça a été ça une innovation future. Mais c'est pas suffisant, ils sont toujours en train de rebâtir et d'améliorer un processus. Il ne faut pas que ce soit l'histoire du BlackBerry où les fondateurs se sont assis sur le fait, entre guillemets, et pendant ce temps-là, Apple a développé quelque chose de mieux. Alors, ils sont toujours en transformation perpétuelle avec leur équipe, leur organisation. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti le site Internet. Bon, c'était pas de bonne qualité au début, l'image était moins bonne. Pour les Québécois, c'était uniquement en anglais. Alors, graduellement, ils ont amélioré la qualité. Ben, les abonnés augmentaient. À un moment donné, il y a 3 ans et demi, 4 ans, ils ont passé pour des un peu super guillemets, parce qu'ils voulaient faire de la production de films. Une affaire qui est, en guillemets, supposément une perte monétaire. Regarde, ce sont parmi les plus grands producteurs de cinéma. Ils transforment toute l'industrie dans les mots de complet. À un moment donné, ils avaient un peu plus de difficulté à s'intégrer à l'échelle mondiale. Alors, parce qu'ils étaient... made américain, trop. Alors, ils ont un régime de producteurs étrangers. Ils ont amélioré les langues. Ils sont produits un peu partout. Et, au lieu de payer des acteurs à 6, puis 8, puis 12 millions, ils ont engagé des acteurs à des revenus plus raisonnables. C'est ça, de la transformation. Ce sont des leaders qui ont une capacité d'observation incroyable. Si vous, ceux qui ont vu le film de Steve Jobs, voyez bien qu'il avait cette capacité-là. Et dans son équipe, au début, je veux un bout. Il prenait probablement qu'à côté, il y avait son BlackBerry, là, avec un petit bouton. Je veux un bouton, mais là, son équipe, il n'est pas passé pour un fou, mais il est passé comme, voyons, comment ça fait ça? Il dit, il y avait le pouvoir, il y avait l'argent, je veux un appareil avec un bouton. Alors, il a isolé le besoin du consommateur d'avoir une vitrine avec une main, qui en réalité, il y a des milliards de boutons. Alors, ils exercent en nombre parce qu'une bonne partie du marché boursier, toute la partie qui réussit le mieux en termes de croissance des profits, des revenus, des ventes et à la bourse, ils sont dirigés par des leaders transformationnels. Alors, prenons l'exemple d'Orange que tu as interviewé dernièrement avec Facebook. Mais Facebook, le leader transformationnel, ça part d'abord d'une personnalité de ces dirigeants-là. Alors, ils ont, d'abord, c'est des gens qui ont souvent une vision à long terme. Ils ont cette capacité de voir ce que le consommateur ne voit moins à court terme. Je pourrais vous parler du troisième lien à Québec, là, les voitures autonomes éventuellement. Bon, ça sont pas du bien boursier, mais ça montre un petit peu que ça s'applique partout.
Alors, okay. Donc, autrement dit, ça, c'est au-delà des... Mais pas au-delà, mais c'est avant les critères de court bénéfice ou de valeur comptable ou d'endettement, autrement dit, ça prend ça. Puis c'est là qu'il faut avoir une bonne capacité de pouvoir juger ça. Après ça, bien, il arrive, là, on ne pourra pas faire le tour de tout ça, mais après ça, va arriver le moment de pouvoir investir parce que là, des fois, justement, ces leaders-là, ces compagnies-là commandent des valorisations qui sont extrêmement élevées. Puis là, il y a une espèce de niveau, on pourrait dire, de nervosité, peut-être de risque à court terme pour l'investisseur plus spéculateur. Parce que, comme on le vit avec Facebook, justement, probablement que oui, à long terme, mais à court terme, il est arrivé une petite changement au niveau des projections. Puis on pourrait dire que la Wall Street n'a pas aimé, puis ils l'ont fait baisser de 20-22%. Fait que ces compagnies-là sont extrêmement valorisées. Mais deviennent peut-être par le fait même peut-être un peu plus volatiles et soumises à se faire brasser, puisque c'est beaucoup, beaucoup basé sur l'aspect de la vision, de l'histoire, puis de ce que ces leaders-là voient pour l'avenir.
Oui, il y a. Les grands noms sont surévalués sur court terme, mais il y a des milliers d'entreprises ou des centaines à la bourse qui sont valorisées, même pas dispendieuses sur court terme, mais qui sont moins d'image de marque. Oui. C'est dans tous les secteurs d'économie. Oui. Les semi-conducteurs, souvent, ont été très sous-évalués, puis sont guidés par des lieux transformationnels, mais c'est pas aussi flyé que Facebook, puis Netflix, puis Amazon. Quand c'est l'image de marque, il faut être convaincu que les ratios financiers, sur un horizon de 3 à 8 ans, ça ramène raisonnable aujourd'hui en espérant qu'ils obtiennent le taux de croissance qui justifie leur cours aujourd'hui. Alors, prenons l'exemple de Facebook, je trouve ça fort intéressant parce que quand on examine les leviers transformationnels, on examine aussi le profil des personnalités et on peut déjà deviner des fois les faiblesses de ces leaders-là qui attirent des problèmes temporaires. Comme par exemple, dans le cas du dirigeant de Facebook, Mark Zuckerberg. Alors, il était, dans YouTube, il y a 2-3 ans, il a interviewé. Puis, son t-shirt, toujours t-shirt, ces gens-là. Alors, il était tout mouillé. C'est quelqu'un qui a une capacité qui a de la difficulté avec le social. C'est pour ça qu'il a créé à l'université son Facebook. C'est une façon d'avoir des contacts sociaux un peu moins personnalisés que des contacts de personne à personne. Alors, il a salué ça parce que probablement que c'est un style surdoué, possiblement on les appelle ceux qui sont moins contacts sociaux. Alors, je t'occupe de voir leur réaction. Alors, ça ne surprend pas non plus qu'il était naïf au niveau de la sécurité, ce qui était la faiblesse qu'il y a eu. Mais j'avais hâte de voir la réaction publique, comment il était pour se défendre cette année. Alors, il s'est très bien défendu, ça a pris quelques semaines. Parce que ces gens-là nous disent en profondeur. Puis quand tu parles devant le Congrès américain, puis en Europe, on voyait un peu le style. Alors, il s'est défendu selon le style de personnalité, puis très bien selon le profil. Puis je pense que, au contraire, il investit plus pour pas que ça arrive de nouveau. Il est devenu conscient. Si on prend l'exemple de notre profil, qui est à l'extrême risqué, Elon Musk de Tesla, qui est un style hyper risqué, agressif, qui prend des grands risques, qui transforme les organisations. C'est un grand visionnaire. Alors, on sait d'avance que tout ce qu'il va faire va prendre un risque maximum. Alors, ça ne veut pas dire que ça va toujours bien fonctionner, mais il faut en tenir compte quand on fait nos critères d'investissement. Donc, on peut trouver autant d'entreprises plus conservatrices. Celui qui dirige actuellement Microsoft, alors Satya Nadella, qui est PDG, c'en a un style visionnaire en lieu transformationnel, mais plus pragmatique. La même chose pour les gens de Google, Larry Page, c'est un visionnaire transformationnel, mais plus pragmatique. La même chose pour Hubert Joly, qui a retransformé depuis 4-5 ans Best Buy, qui était un compagnie qui était en difficulté financière. Alors, c'est les deux-là, ils font des choses que les autres ne vont pas, et ils sont très recherchés dans la bourse. Puis quand les organisations sont dirigées par ces gens-là, règle générale, avec, il faut acheter tout le côté financier autour, tout le côté qualité opérationnelle. Il faut que ça s'additionne. Ça additionne l'ensemble des critères quantitatifs, classiques, financiers, avec, et la valorisation, avec une culture transformationnelle, parce qu'il n'y a pas juste la tête. Ces gens-là ont tendance à nommer toute une équipe autour qui leur ressemble, qui sont aussi des VP transformationnels, pour créer une vraie culture transformationnelle qui fait que les gens sont hyper heureux de travailler dans ces organisations-là. Alors, les gens, les différents sondages qui sont faits, quand ils veulent, par où ils ont le rêve de travailler, souvent, c'est vers des organisations qui sont gérées par eux.
Et ils vont attirer de cette manière-là le talent, la créativité, des gens hyper motivés qui vont mettre non seulement les heures, mais qui vont mettre aussi leur âme, leur cœur et tout ce qu'ils sont. Et ça vient créer encore plus. Autrement dit, ça devient non pas un cercle vicieux, mais ça devient un cercle vertueux. Ça devient... dans le fond, c'est plus ça va, mieux ça va, mieux ça va, plus ça va, parce que tu attires des gens et ça attire le talent. Puis si normalement, ils font quand même des sous. Fait qu'en plus, il y a une bonne paye au bout de la ligne pour tout le monde. Fait que ça devient un succès, puis qu'ils n'ont pas vraiment de problème, ils ont moins de problèmes à avoir des candidatures de qualité, on pourrait dire.
Oui, la recherche des talents, c'est le défi actuel, surtout dans l'économie de la connaissance. Alors, c'est elle qui est, c'est différent de notre cyclique, là. Alors, dans cette économie-là, les talents sont recherchés, puis ce sont les meilleurs à avoir des aspirateurs de talents, à les retenir. Ils savent le connaître. Je parlais avec quelqu'un qui connaît, c'est la compagnie Shopify qui fait le commerce électronique au Canada, à Ottawa. Alors, il dit, parle-moi d'organisation, comment ça se passe chez vous? Puis comment vous recrutez? Comment ils recrutent les talents mondiaux? Et de temps en temps, ils recrutent des spécialistes parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais il dit, la plupart des gens qui recrutent, ils ne sont pas des gens qui ont l'expérience dans la technologie nécessairement. Ils vont le chercher parce qu'ils ont des talents personnels particuliers, puis ils les transforment en organisation, puis s'adaptent, puis ils vont loin. Hein? La culture d'entreprise, elle est forte dans l'organisation. Il dit, comment décrivez-moi une semaine, comment ça se passe? Rendu le vendredi, le département de culture monte dans un étage à Ottawa, ils ont des monteurs qui ont tout fait ce qui a bien été pailleté bien, avec des montages multimédia sur la semaine, puis là, la bière rentre de 4-5 heures jusqu'à 11 heures du soir tous les vendredis. Alors, ça, c'est l'exemple de climat de travail qui aspire. Puis là, comme les gens d'Ottawa, ils trouvent ça des fois plus glorieux, alors qu'ils aiment bien Montréal, bien, ils s'organisent pour qu'ils aillent voyager souvent à Montréal. Alors, ils vont chercher les besoins profonds des gens pour être des aspirateurs de talent. Alors, ça, c'est très, très fort. Il y a des mêmes qui sont des fois moins bien payés, d'autres bien payés, mais c'est des principes humains qui sont appliqués. Ils connaissent le consommateur. Ils connaissent les besoins des latents des consommateurs, puis ils connaissent les besoins, ce que recherchent les ressources humaines autour. La même chose pour les financiers. Ils vont focusser les financiers sur des fois court terme, des fois moyen terme, des fois long terme. Un autre grand succès mondial, le plus succès de la Chine, c'est Alibaba, par Jack Ma. Je vous invite à regarder dans YouTube Jack Ma. Écoutez ce monsieur-là qui gagnait, je pense, 15 ou 20 $ par mois enseigner l'anglais aux universités chinoises au début, qui était refusé partout. C'en est un, les deux transformateurs. D'autres caractéristiques, c'est que les niveaux sociaux sont très forts. Je pense qu'il avait mentionné que près de 50% des dirigeants de cette organisation sont des femmes. Dans un pays où les femmes ont moins marqué que dans les pays occidentaux. Alors, si vous écoutez le YouTube, vous allez comprendre. Un autre élément, le style de personnalité. On peut faire l'antithèse de ça. L'antithèse, si vous allez dans Netflix, puis ceux qui l'ont vu, vous allez dans la section argent sale. Et le film qui s'appelle, le documentaire qui s'appelle Vente à découvert, où d'ailleurs il y a un documentaire sur Trump, son histoire, mais il y a aussi là-dedans, vous avez l'histoire de Valium. Alors, l'histoire de Valium, agent sale, Vente à découvert, vous allez découvrir l'histoire de Valium, copie de Montréal. L'ancien dirigeant était l'antithèse de l'idée transformationnelle. Alors, le modèle d'affaires est uniquement basé sur le profit des actionnaires. Et non pas sur le consommateur. Une autre caractéristique de ces deux transformationnels-là, ou de culture transformationnelle, c'est cette capacité de s'adapter rapidement au changement, à l'environnement, de façon fulgurante. Quand Netflix voyait qu'il était critiqué pour ses trois films anglais, ça n'a pas pris un certain temps qu'automatiquement, ils ont produit à l'étranger, ils ont fait des changements rapides plus qu'avant. Ah, puis des fois, ils vont très, très vite. Hein? Ils sont excessivement vite sur la façon d'opérer, mais c'est la culture décentralisée. Le livre de Google, il y a quelques années, il disait que chez Google, il y avait 2000 présidents. Alors, ils décentralisent, ils vont mettre une cellule de travail, des fois 2, 3, 8 personnes, une fonction, c'est très organique, hein, c'est pas hiérarchique, pas en tout. Et à ce moment-là, ils donnent des responsabilités avec un chef de groupe, puis un équipe de groupe, puis un but objectif à atteindre, clair et précis, puis allez-y les gars, puis les filles, puis avancez. Alors, cette culture-là décentralisée, c'est comme, ça copie un peu le fonctionnement du corps humain, des neurones. Ça fonctionne moins, ça copie moins le fonctionnement hiérarchique qui est fait d'une structure hiérarchique. Alors, je ne sais pas, vous en t'en parler, Pierre-Luc, des heures de temps, ça fait 30
ouais, ben
ans que
c'est ça. On le sent, mais j'aime ça, c'est un concept. Tu as amené des noms, tu as amené des images, tu as amené des idées. C'est sûr qu'on ne fera pas le tour de tout l'idée que tu as là-dedans, puisqu'effectivement, il y aurait des heures. Mais je trouvais ça le fun et rafraîchissant et différent, dans le fond, de ce qu'on lit souvent sur la finance. C'est beaucoup plus souvent, on va se concentrer sur les chiffres d'affaires, des croissances, des ratios, et on va toucher un peu moins à l'aspect de l'organisation, puis parce qu'aussi, c'est plus difficile à définir dans un chiffrier Excel 8,5 par 11 avec des cellules. Fait que j'aimerais partir, on va mettre une pause sur celui-là, on s'en reprendra une autre fois. J'aimerais qu'on puisse aller maintenant sur le deuxième sujet, qui est une question que je vais faire jouer à l'instant.
C'est vraiment le fun que tu prennes le temps de faire tes podcasts, et puis je trouve ça très intéressant là, de pouvoir apprendre puis connaître de plus en plus les gestionnaires. J'avais peut-être une petite idée là, de questions à te partager si jamais tu as envie de discuter là-dessus là, avec ton prochain invité sur le pré-investissement là, dans les marchés financiers. Je me demandais des avantages, désavantages, l'horizon de placement, puis un peu savoir là, peut-être selon votre expérience dans le temps, là, si ça a été favorable, puis peut-être connaître là, dans le fond, si c'est quelque chose que vous faites ou que vous avez déjà fait. Donc si c'est possible, ben je serais très heureux là, de vous entendre débattre sur le sujet. Donc je te remercie. Au revoir.
Donc, c'est ça, on nous demande, Michael nous demande si, possible, ben, il nous demande notre opinion, dans le fond, ou l'opinion qu'on pourrait avoir sur le fameux prêt-investissement, le prêt-levier. Ce que j'ai compris, c'est vraiment quand on emprunte pour investir dans le monde des fonds d'investissement. Toi puis moi, on vient toutes les deux de l'industrie du courtage de fonds. Toi, t'es même encore plus, tu remontes encore plus loin que moi en arrière. Et ça a été, et c'est encore populaire, le fait par les représentants, les courtiers, d'offrir des prêts marges, des prêts leviers, des fois sur des termes de 5 ou 10 ans, pour investir dans des fonds mutuels, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses?
On parlait de ça tout à l'heure, Pierre-Luc. C'est au début, quand l'industrie des fonds communs avait démarré il y a 25 ans, 30 ans, c'est devenu très populaire. Les gens mettaient un effet de levier. Bon, si le fonds, c'est à l'époque des années 90 où les fonds mutuels faisaient comme 15 ou 20 % par année, avec un effet de levier qui empruntait à 5-6 des sites d'impôts, 20 % de gains de côté, l'écart, bon, ça montait vite, c'est extraordinaire. Mais on sait que la réalité, d'abord, à long terme, le rendement moyen des fonds équilibrés d'actions au pays, au Canada, selon le Globe and Mail, c'est autour de 5,5 à 6 % sur 20 ans. Ça, c'est la réalité, incluant des périodes de crise et de récession. Donc, bon, premièrement, il faut être plus conservateur sur les rendements à long terme, puis encore plus conservateur maintenant qu'il y a 5 ans, parce que nous sommes à la fin d'un cycle économique. À la fin d'un cycle économique, théoriquement, d'ici quelques années, il devrait y avoir une autre crise financière, une autre récession, et la moyenne des fonds communs vont baisser de 30 % en moyenne du haut jusqu'en bas. Donc, souvent, c'est populaire, plus populaire vers la fin du cycle. Les gens disent, oups, ça va bien depuis 5-6 ans, les fonds communs font 10-12 % j'emprunte à 4 % des types d'impôts, je vais faire de l'argent, etc., etc., mais jusqu'au moment où il y a une baisse de marché. Mais là, ils ont une baisse de marché, puis que des fonds baissent de 30 % le capital, lui, la dette, là, l'obligation, elle demeure, elle.
Elle ne baisse pas de 30 % elle.
Non, elle ne baisse pas de 30 % Alors, puis, donc, les gens ne réalisent pas nécessairement ça. Alors, puis comme l'effort des gens ont tendance à être non rigoureux, d'ailleurs, les études de Dalbar, des études qui ont été faites du côté américain-canadien depuis longue date, si vous tapez Dalbar, études de rendement à long terme dans Google.
Dalbar, c'est D-A-L-D comme Denis, A-L-B-A-R, Dalbar?
Oui, oui. Oui, okay. Il y a eu énormément d'articles mondiaux là-dessus qui ont été faits. C'est d'études qui montrent le rendement réel des utilisateurs de parts de fonds communs à long terme. Puis en moyenne, là, sur 20 ans, les gens font à peu près 4 % de moins que les fonds d'action qu'ils achètent. Ils font 3 % de moins que les fonds équilibrés et 2-3 % de moins que les fonds d'obligation.
C'est pas fort. Autrement dit, ils ont tendance, on va dire le vieil adage, ils ont tendance à acheter haut en fin de cycle puis à vendre en panique quand ça baisse. Si on comprend, là?
Oui, ben c'est le manque de rigueur. Ils ont tendance à faire ça. Bon. Mais ça, c'est relié à la psychologie humaine. Je me passionne pour la neuroscience depuis très longtemps, la psychologie investisseur. Je suis spécialisé en plus de la finance, dans la finance comportementale. Puis quand on, j'avais lu dans un livre de quelques années qui est sorti sur la neuroéconomie. Puis les neurologues avaient identifié que pour le corps de la population, quand il y a une perte financière, ça va se loger dans les zones du cerveau le même que danger mortel. Alors ça veut dire que probablement que ceux qui utilisent l'effet de levier, plus que les autres, c'est pas tout le monde qui fait ça, ceux qui utilisent ça ont tendance à être les plus volontaires pour faire des gains rapides et les plus nerveux et les plus paniquants probablement quand il y a des pertes financières. Donc, c'est ça qui est... Donc, la plupart des expériences, probablement, j'ai pas vu d'études là-dessus, ceux qui font les effets de levier à long terme, je suis convaincu qu'ils ont fait encore moins que les études d'allemand en termes de rendement. Par contre, il y a toujours des gens qui sont rigoureux. Minorités, qui sont disciplinés, qui disent « Ah, ça baisse pas, moi c'est sur 10 ans, ma vie a démontré que j'étais un gars ou une fille rigoureux ou rigoureuse, et je pense que c'est un bon choix de faire, puis c'est pas un surmarge, c'est un prêt solide qu'on ne rappellera pas. » Dans ce contexte-là, cette minorité de population-là, là ça peut s'avérer, puis encore là, il faut avoir une technique aussi, il faut sortir du marché un peu ou augmenter, il faut avoir des stratégies qui vont prévoir la prochaine récession. Puis dans ce sens-là, cette minorité-là, ça pourrait être une opération rentable.
Disons que c'est dans un monde parfait, je vais essayer de résumer ça, c'est sûr et certain que si on n'était pas en fin de cycle, mais en début de cycle, où est-ce qu'on vient de subir une baisse, qu'on se prend, mettons, un prêt de 10 ans structuré, qui est un prêt qui ne peut pas être rappelé, puis qu'on sait qu'on va payer jusqu'à terme, et qu'on a une habitude d'être un investisseur rigoureux, puis qu'on connaît ce qu'on fait, là, à ce moment-là, ça pourrait avoir un certain avantage que toutes les conditions se réunissent. J'achèterais dans un creux ou une baisse après correction, j'aurais un prêt qui serait fixe à terme avec un bon taux d'intérêt sur 10 ans, puis j'ai une bonne connaissance rigoureuse. Le contre-coup de ça, le contraire, c'est on est en fin de cycle, je regarde les rendements 3, 5 et 10 ans, et là c'est épouvantable parce que les rendements 10 ans vont être extraordinaires, parce que présentement ce qui se passe, c'est que là, les rendements 10 ans sont moyens, mais dans 6 mois à peu près, quand on va arriver, les rendements 10 ans qui vont partir de mars 2009 à aujourd'hui. Ça va être des rendements sur 10 ans composés qui, d'après moi, ils vont dépasser le 10%. Et ça peut faire en sorte que les gens qui connaissent peu ça vont se dire « Mais c'est donc bien bon, des fonds, c'est donc bien fort. » Puis là, ils peuvent risquer de tomber dans cet élément-là. Fait que, autrement dit, à la fin de la journée, hein, pour prendre un anglicisme, c'est pas tellement l'outil qui est problématique comme la psychologie et le timing de celui-là qui va le faire, ce fameux prêt-là.
C'est parfaitement vrai. Je pense que c'est grand service à rendre à des gens. Il y a une personne dernièrement qui me disait, ben écoute, moi j'ai une marge de crédit hypothécaire sur un immeuble. J'aimerais ça investir à la bourse, que ce soit, n'importe la bourse, fonds, peu importe, là, avec la marge de crédit. Ben, dis, regardez, il y a une récession normalement qui devrait arriver à quelque part d'ici quelques années. Alors, peut-être 3 mois, 6 mois, non, on ne sait pas que ça sera le cas dans 2 ans. Alors, oui, marge de crédit, garde-le. Mais quand tu vas arriver le pire de la récession, lorsqu'on garde en contact, là, quand ça va être le creux du creux, il va y avoir un timing, il va y avoir un momentum peu risqué. Tout le public va voir que c'est risqué. Dans une récession, on pense que les gens, souvent, que c'est la fin du monde. Non, après une récession, il y a toujours une reprise. Alors, mais quand tu étais vraiment dans le creux, là, la personne, elle attend. C'est son immobilier, elle attend, sa marge de crédit, elle est prête. Puis en temps et lieu, elle va réagir. Du temps-là, ben, si vous voulez investir, ben, on va être une gestion plus classique, style d'obligation en attendant. Puis en temps et lieu, ça sera transformé en action.
Oui, je trouve que ça l'a vraiment. En tout cas, j'espère que ça répond à ta question, Michael. Fait qu'on était en contact sur Facebook. Il fait qu'est-ce que. Je... Puis en plus, il a été gentil. Il me l'avait écrit. J'ai dit, tu pourrais-tu, s'il te plaît, me la donner en audio? Ça fait plus vivant. Ça fait plus podcasting. Dernier point que je voulais toucher avec toi aujourd'hui, William André, c'était au niveau que tu aimes tellement le balado, tu aimes tellement partager ta passion. Ça se sent pas pantoute d'abord. Que tu vas bientôt, je sais que je te prends de court un petit peu, mais c'est très bientôt, tu vas avoir ta propre série de balado.
Oui, ben, c'est inspiré en partie de toi, Pierre-Luc. Alors,
Yes.
ça fait de nombreuses années que je fais des audios pour les investisseurs, puis même dans conseil.ca. Et à ce moment-là, ben, je pense que c'est une voie de l'avenir. Et à ce moment-là, ben, ça va s'appeler la bourse comportementale. Ça va démarrer au cours de septembre, donc on pourra s'en parler à ce moment-là. Et il va y avoir des interventions sporadiques entre 4 minutes, parfois 12 minutes. Et ça va être un peu de la formation d'information pour les investisseurs. Alors, je prends mes 30 années d'expérience dans les marchés financiers et de nombreuses recherches ou lectures ou autres que là, et j'enseigne un peu des leçons reliées à l'investissement. Et ça ne sera pas juste du côté financier qu'on va publier partout. Il va y avoir un volet finance comportementale qui va être un peu plus coloré dans ce sens-là. Puis, l'exemple tout à l'heure que je mentionnais le fait que les pertes financières au corps de la population, ça va se loger dans la zone du danger mortel. Bon, alors ça, c'est un exemple typique. Après ça, on va y aller avec des exemples. On va y aller sur beaucoup, beaucoup de facteurs. Alors, ça va être ça.
Ben, écoute, ça va être quoi le nom du podcast? Je veux pas te
Ça va
prendre
être
de cours, mais.
la bourse comportementale.ca.
All right, je vais mettre le lien.
C'est pas encore en ligne.
Je
ça
sais,
se
je
passe
sais,
bien.
je sais. C'est
Au
un
cours de
scoop.
septembre.
C'est un scoop, là. Fait que si vous nous écoutez là, maintenant, là, parce que je vais mettre le podcast en ligne très bientôt. Donc, c'est pour. Tu nous dis fin septembre, donc? Fin septembre, début
Oui,
octobre, là.
Ben,
Bon.
ça va être au cours de. D'ici la fin septembre.
Bon, fait que c'est parfait. Fait que si on nous écoute en novembre, moi, parce que j'ai encore des gens qui écoutent mes podcasts du mois de mai, ça fait que. Non, c'est super. Je vais mettre le lien dans la page du podcast. Donc, tu me le répètes, le nom, c'est la bourse
comportementale.ca, ça va être
right.
le site en
Super.
conséquence.
Ben écoute, ça a été un grand plaisir, William André. Fait que merci pour ta passion, merci pour ton partage. Et puis, ben, on se dit ben, à la prochaine.
Merci beaucoup.
Bye.
Bonjour.
Encore une fois, une rencontre toujours divertissante, toujours intéressante, toujours approfondie et différente. On a du talent au Québec, je le répète à toutes les fois. Si vous m'écoutez en série, vous allez être presque étonné de m'entendre, mais je vais continuer. On a besoin, je pense, de se le dire qu'on a du talent au Québec. On a des gens qui pensent de façon différente. William André est un bel exemple, il s'influence beaucoup. Il n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup là-dessus, mais beaucoup, beaucoup les podcasts. Il écoute beaucoup ce qui se passe en Europe, en France, en Angleterre, parce qu'ils ont une façon différente de regarder ce qui se passe ici, en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis. Alors, vous continuez, on va commencer à revoir tranquillement, pas vite, des gens qu'on a déjà vus ou qu'on a déjà entendus sur le podcast de l'émergence. Ça continue. Alors, vous voyez, ça fait même des petits, il y a des gens comme William André qui partent leur propre podcast. C'est génial parce qu'ils veulent encore plus loin pour donner de l'information. Je trouve que c'est la meilleure façon. Oui, c'est la voie de l'avenir. La voie, c'est la voie de l'avenir. Donc, merci d'avoir été là, Pierre Le Poulin. Vous pouvez me retrouver partout sur Twitter, Facebook et tout ce que vous connaissez. Vous m'écrivez, vous envoyez une question. Écoutez, vous avez une preuve aujourd'hui que les gens écoutent. Puis, il s'est dégainé. Merci beaucoup, Michael ou Michael. J'ai pas. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps d'enregistrer ça. Je sais que c'était pas nécessairement ce que vous vouliez faire, mais vous avez participé au podcast. Puis, j'en suis fort aise. Merci beaucoup d'être toujours là. Et puis, on se dit à la prochaine. On continue. Hey, bye.